Le message que vous allez écouter a été prêché à l'origine par John MacArthur de Grace Community Church, qui se trouve au sud de la Californie. John est pasteur, auteur, président du Master College and Seminary. Il est également le prédicateur principal de Une Grâce pour vous, un ministère d'enseignement biblique par les médias diffusé dans le monde entier. Ce message, traduit en français, vous est présenté par Une Grâce pour vous et ses partenaires. Après cet enseignement, nous vous communiquerons les informations qui vous permettront de vous connecter sur le site Une Grâce pour vous. Maintenant, écoutez l'enseignement de John MacArthur qui vous expliquera la vérité de Dieu au travers des versets bibliques.
Aujourd'hui, nous allons faire quelque chose d'un peu spécial, je pense. Certaines personnes parmi le personnel et les anciens ont proposé que nous passions un dimanche sur le sujet de comment étudier la Bible, parce que nous avons tellement de nouvelles personnes qui viennent à l'Église de la Grâce, et tellement de gens qui ont vraiment faim de la parole de Dieu, et qui peut-être ne savent pas comment l'aborder. Et apparemment, un nouveau cours sur comment étudier la Bible a été proposé, il y a 2 semaines, et la salle s'est si rapidement remplie que plein de gens n'ont pas pu y avoir accès, ce qui indique un grand besoin. Alors il a été proposé que nous commencions cette étude aujourd'hui. Curieusement, je n'étais pas au courant de ces choses, mais j'ai proposé de faire cette étude, et tout le monde a cligné de l'œil. Donc je veux partager avec vous ce matin, et ensuite ce soir, une étude sur comment étudier la Bible. Je n'ai que 2 points. Qui et comment? Ce matin, j'aimerais parler de qui, tandis que je parlerai de comment ce soir. Ce matin, je voudrais parler de qui peut étudier la Bible, et ce soir, je parlerai de comment l'étudier. En effet, si on n'est pas la bonne personne, qui? Le comment aura aucune importance. Vous pourriez disposer de toute la méthodologie nécessaire pour étudier la Bible. Vous pourriez connaître toutes les techniques et pourriez avoir toutes les idées, mais si votre vie n'est pas en ordre, vous n'allez pas percevoir ce que Dieu veut que vous voyez. Ainsi, nous devons commencer par le qui et ensuite aborder le comment. Et c'est ce que nous voulons faire aujourd'hui. Je suis enthousiaste pour ce soir, parce que ça va probablement être la soirée la plus pratique que nous n'avons jamais passée sur comment étudier la Bible. Et en tant qu'Église engagée à étudier la Bible, je pense que vous pouvez faire partie de ce que nous allons dire ce soir. Je crois que Dieu va vraiment s'en servir. Partout où nous avons partagé ces vérités, Dieu les a bénis dans la vie de ceux qui les ont mises en application. Il y aura un certain nombre de choses très concrètes. Comment ouvrir un texte? Comment comprendre les versets? Comment saisir le sens d'un passage difficile? Quelles sont les bonnes ressources? Et ainsi de suite. Nous aborderons cela ce soir. Pour ce matin, nous voulons en quelque sorte introduire le sujet et parler un tout petit peu de qui dans l'étude biblique. Qui peut étudier la Bible? Cela m'étonne toujours qu'on emploie la Bible comme un livre de littérature à l'école et que les gens l'étudient pour identifier ses idées et qualités littéraires. Et ensuite, il y a les sectes qui prennent la Bible et tentent de la systématiser pour constituer de formidables décoctions religieuses et qu'on s'en serve comme d'un ouvrage de littérature ou qu'on l'utilise comme un outil qui permet de développer un faux système religieux. Alors on produit invariablement une erreur parce qu'il manque certains facteurs, des ingrédients absolument nécessaires. C'est ce dont nous voulons parler ce matin. Certains d'entre vous ont peut-être lu au sujet d'un certain philosophe religieux danois du nom de Soren Kierkegaard, qui a vécu au XIXe siècle. Kierkegaard a dit beaucoup de choses dans le cadre du christianisme et de la religion, que nous n'accepterons pas nécessairement. Mais de temps en temps, il lui est également arrivé de dire des choses très profondes, et l'une d'elles, j'ai pensé, était cette déclaration que j'aimerais lire pour vous. Écoutez-la. Trop souvent, les gens agissent dans leur vie d'église comme s'ils faisaient du théâtre, imaginant que le prédicateur est un acteur tandis qu'il serait ses critiques, qui louent et critiquent ses performances. En réalité, les gens sont des acteurs sur la scène de la vie. Le prédicateur n'est qu'un motivateur qui se contente de leur rappeler leur texte oublié. Je pense qu'il perçoit un problème réel. C'est très facile pour vous ou n'importe qui d'autre de venir à l'église et de s'y comporter comme dans une salle de théâtre, de s'asseoir là et regarder les choses se faire, pour ensuite féliciter ou critiquer ce qui s'est passé. Mais il a raison. Le fait est que vous êtes véritablement des acteurs qui évoluent sur la scène de la vie, et je suis là pour vous rappeler ce que vous êtes supposé faire. Si tout ce qui se passe, c'est que vous vous contentez de venir évaluer le sermon, alors vous êtes passé à côté de la cible. Par contre, si vous venez apprendre ce que je fais, ce que vous devez faire quand vous approchez la parole de Dieu, c'est que vous avez compris. Une dame m'a dit à l'une des conférences, elle est montée jusqu'à moi et a dit, « Savez-vous ce que votre prédication me fait ?» Et j'ai dit, « Je n'en ai aucune idée. » Elle a dit, « Elle me donne envie d'étudier la Bible. » Elle l'a exprimé très simplement. Et j'ai dit, « Eh bien, je pense que c'est le meilleur compliment que je n'ai jamais reçu. Cela vous donne envie d'étudier la Bible. J'ai vraiment le sentiment que tout y est. Je ne suis pas là pour vous divertir. Je ne suis pas là pour présenter un show qui doit être évalué. Je suis là pour vous stimuler à faire quelque chose de vous-même. Et il s'agit d'apprendre la parole de Dieu et d'apprendre à la mettre en pratique. Et si vous ne saisissez pas ce message, c'est que vous êtes passé à côté de la plaque. Et moi, je n'aurais fait qu'un exercice futile. Le ministère de la chair consiste à stimuler les gens qui sont sur les bancs. Et la raison pour laquelle j'étudie et j'enseigne, c'est pour vous stimuler à étudier et à enseigner. Et ce qui est triste dans tout cela, c'est qu'il y a tellement de chrétiens qui ne le font pas vraiment. Ils ne s'y impliquent pas du tout et n'enseignent personne d'autre. Et il y a toujours des distractions, vous savez. Je pense à Paul écrivant à Timothée. Et il lui a dit, « Timothée, ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. En d'autres termes, Timothée, ce que je t'ai dit, je te l'ai dit pour que tu en parles à quelqu'un d'autre. Car, voyez-vous, dans 2 Timothée, Timothée qui se trouve au carrefour de sa vie, au moment où Paul écrit ce livre, commence à s'essouffler. Il est même anxieux, vous savez. Et Paul lui avait écrit plutôt au sujet de faire usage d'un peu de vin à cause de ses fréquents maux d'estomac. Et il commençait à craindre au sujet de sa jeunesse. Les gens le harcelaient à ce sujet, et Paul dit donc, « Ne laisse personne mépriser ta jeunesse. » Et il dit, « Fuis les passions de la jeunesse. » Et Timothée combattait sa jeunesse. Il luttait contre ses problèmes physiques. Il était fondamentalement quelqu'un de timide. Et Paul dit donc, « Dieu ne t'a pas donné un esprit de timidité. » Il était persécuté. Il était également attaqué par des erreurs religieuses de grande envergure, qui avait envahi l'église d'Éphèse et répandait certaines généalogies, une espèce de philosophie très puissante qu'il était vraiment incapable de gérer. Alors, il avait commencé à s'essouffler et à se renfermer et à abandonner et à s'échapper. Et Paul lui dit, « Écoute, mec, tu ne peux pas jeter l'éponge. Un trop grand investissement a été fait en toi. Tout ce que je t'ai confié, je te l'ai confié pour que tu puisses le transmettre à quelqu'un d'autre. C'est tout. » Dimanche dernier, vous avez eu l'occasion d'écouter mon père, qui a fait un grand engagement dans ma vie, m'a donné beaucoup de choses à transmettre. Son père lui a donné des choses à transmettre, et ce que j'ai, je dois le transmettre à d'autres, et quand je vous les transmets, vous devez les prendre, et les développer, et les apprendre, et les transmettre à quelqu'un d'autre. Vous savez, il s'agit d'une course de relais. Nous sommes tous impliqués. Maintenant, au cours des récentes semaines, nous avons terminé notre étude d'Éphésiens. Et nous avons parlé de l'épée de l'esprit, et combien il importe que nous connaissions la parole de Dieu pour combattre l'ennemi. Nous devons l'étudier pour nous-mêmes, et l'étudier pour pouvoir la transmettre à d'autres, afin qu'eux aussi puissent expérimenter la victoire que la parole de Dieu produit. Et vous vous souvenez dans ce message sur l'épée de l'esprit, que j'ai dit que la Bible est une source de vérité, de joie, de puissance, de direction, de croissance, de consolation, de perfection et de victoire. Un immense réservoir de vérité. Et à ce moment, je voulais vraiment aborder le document sur comment étudier la Bible. Mais nous n'avions pas le temps. C'est pour cela que je vais le faire maintenant. Je ne veux pas, en effet, me contenter de vous exhorter sans vous instruire. Je ne veux pas me contenter de dire « étudier la Bible » sans vous dire comment ou quelles sont les conditions. J'aimerais que vous soyez capable de l'aborder et d'être véritablement productif. Un jeune homme m'a écrit cette semaine et il fréquente une grande école très charismatique en Amérique. Et il m'a écrit une lettre des plus intéressantes. Il a dit, « J'ai été transféré ici à partir d'une université libérale. J'ai fréquenté une université où ils ne croyaient pas en la Bible et niaient les grandes doctrines. » Et il a dit, « J'avais remarqué qu'il y avait énormément d'attitudes charnelles, et ils adoraient leur intellect. » Et ensuite il a dit, « Permettez-moi de me montrer très honnête avec vous. Là où je suis en ce moment, je retrouve les mêmes attitudes charnelles, et ils adorent leurs émotions. » Et il a dit, « Où puis-je trouver un endroit où on adore Dieu à travers sa parole ? Quelle formidable pensée ! Il n'y a rien de mal avec l'intellect, tant qu'il est assujetti à la parole de Dieu. Il n'y a rien de mal avec les émotions, aussi longtemps qu'elles sont sous l'autorité de la parole de Dieu. Mais le centre de toute chose, c'est la Bible, la parole de Dieu. Et en tant que croyants, c'est ici que nous devons être. Et si nous devons nous engager vis-à-vis de la parole de Dieu en tant qu'Église, alors il faudrait également que cela soit vrai dans notre vie individuelle. Cet engagement doit être là. À présent, pour commencer, si nous allons étudier la Bible, nous devons être engagés par rapport au fait qu'elle a besoin d'être étudiée, d'accord? Je veux dire que cela me semble fondamental. Regardez avec moi pendant une minute et permettez-moi d'établir cela en quelque sorte dans votre pensée. Regardez Osée, chapitre 4. Osée est confronté à une réalité en Israël. Et la réalité est celle-ci. Le peuple de Dieu a abandonné Dieu. Et par conséquent, ils sont tombés dans tout genre de péché. Ils se sont prostitués. Ils sont devenus une nation adultère qui viole le vœu fait à Dieu. Et quel est le problème fondamental? Comment est-ce que c'est arrivé? Et pourquoi est-ce que c'est arrivé? Indiqué dans Osée 4 ans et la suite. Écoutez ce qu'il écrit. Écoutez la parole de l'Éternel, enfant d'Israël. Nous pouvons nous arrêter juste là. Osée 4, 1. Écoutez la parole de l'Éternel, enfant d'Israël. Il met son doigt exactement là où se trouve le problème. Lorsqu'une nation cesse d'écouter la parole de l'Éternel, la confusion et le chaos s'installent. Car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays, parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. Autrement dit, ils avaient enlevé la fondation, et une fois que la fondation a sauté, ce qui est resté se trouve au verset 2. Il n'y a que parjure et mensonge, assassinat, vol et adultère. On use de violence, on commet meurtre sur meurtre, du sang répandu partout. En d'autres termes, on obtient le chaos national du verset 2 lorsqu'on délaisse la fondation de la parole de Dieu qui se trouve au verset 1. Je vais vous dire quelque chose, braves gens. En Amérique, les gens sont préoccupés. Ils sont inquiets au sujet de notre pays. Ils sont préoccupés par la criminalité croissante. Ils s'inquiètent de la désintégration de la structure familiale. Ils sont inquiets au sujet du chaos qui règne dans le gouvernement. Ils sont préoccupés par le stress économique et le chaos dans ce domaine. Les gens ont toutes ces préoccupations dans leur cœur. Et je vais vous dire la vérité à ce sujet. Il n'y a pas de solution à ces problèmes. On peut changer le cabinet toutes les semaines si on veut. On peut relever les gens de leurs fonctions et en ramener d'autres tout au long de la semaine, tout le long du mois et tout au long de l'année. Et on n'éliminera quand même pas les problèmes moraux dans une nation comme la nôtre, à moins d'effectuer une réaffirmation du standard de la qualification absolue de la parole de Dieu à donner le rythme à ce pays. La même chose en Israël. Détruisez une base biblique et tout ce que vous aurez, c'est le chaos. Et parce qu'ils ne voulaient pas écouter la parole de Dieu, tout ce qui est mal a commencé à se produire. Et le pays était dans le deuil, verset 3. Tous ceux qui l'habitent seront languissants, et avec eux les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Même les poissons de la mer disparaîtront. Tout va mal, tout. Et tout cela se rejoint au verset 6. Mon peuple est détruit. Pourquoi? Parce qu'il lui manque la connaissance, puisque tu as rejeté la connaissance. Quand un peuple rejette la loi de Dieu, la connaissance de Dieu, il ouvre les vannes du chaos. Cela est vrai dans le cas d'une nation, comme dans le cas d'Israël, mais cela se vérifie également dans la vie d'un individu. Si on n'a pas la parole de Dieu comme base de sa vie, comme guide pour son comportement, comme fondation solide sur laquelle on vit, il n'y a aucune fondation. Il n'y en a aucune. Dans Proverbes, chapitre 1, l'écrivain dit que la sagesse crie dans les rues. Jusqu'à quand, stupide, aimerez-vous la stupidité? Pendant combien de temps encore allez-vous continuer d'être naïf et stupide? Pendant combien de temps allez-vous rejeter la parole de Dieu? Et il dit qu'ils font la sourde oreille et refusent d'écouter. La sagesse est disponible, braves gens. Ainsi donc, de manière générale, je m'efforce de vous montrer combien il est important d'étudier la parole de Dieu. C'est la fondation de tout. Un juge m'a écrit en disant « Que dit la Bible au sujet de ce qui est juste dans une cour de justice ? Que dit la Bible au sujet de ce qui est juste en termes de discipline pour nos enfants ? J'ai reçu des lettres émanant des médecins. Que dit la Bible au sujet de l'avortement ? Que dit la Bible sur l'euthanasie ? Que dit la Bible sur la manière dont certaines personnes se trouvant dans certaines situations psychologiques et psychiatriques doivent être traitées ? Ainsi donc, bien-aimés, ce que je vous dis est ceci. Vous ne pouvez pas mener votre vie comme vous le devriez, sans la connaissance de la parole de Dieu. Et il est donc impératif que nous devenions étudiants de sa parole. Dans le Nouveau Testament, cela devient littéralement un problème à part entière. Dans Romains 12, 2, il est dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Maintenant, comment surmonter le système qui vous engouffre? Comment s'élever au-dessus de la corruption dans laquelle nous vivons? Comment transcender la mentalité qui est à la mode? » Il est dit « Soyez transformés, mais comment ? » Par le renouvellement de votre quoi ? Intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. En d'autres termes, il faut d'abord la connaître et ensuite la vivre. Si vous vous précipitez en essayant de vivre sans la connaissance de la vérité de Dieu, vous allez vite réaliser que vous allez vous prendre le système dans la figure. Pour le transcender, vous devez connaître la parole de Dieu. Dans Éphésiens 4, 23, l'apôtre Paul déclare « Soyez renouvelés dans l'esprit de votre intelligence. » Dans Philippiens 1, 9, il dit « Que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement. » Dans Philippiens 4, 8, il cite plusieurs choses, puis il dit « Que ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. » Dans Colossiens chapitre 1, « Croissant par la connaissance de Dieu, dit-il. » Dans 2 Pierre 3, 18, « Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. » 2 Timothée 3, 16, « La parole de Dieu est donnée pour vous rendre parfait et vous permettre de connaître la volonté de Dieu et le choix de Dieu pour votre vie. » La connaissance, dans Proverbe 24, 13, il y a une belle déclaration sur la connaissance. « Mon fils, mange du miel, car il est bon. Un rayon de miel sera doux à ton palais. » De même, connais la sagesse pour ton âme. Et ainsi, tout au long des Proverbes, 31 chapitres, se trouve l'injonction d'apprendre la vérité de Dieu pour vivre par elle. Connaître, rechercher la sagesse, chercher la sagesse, chercher la sagesse encore et encore. Et au fait, on enseignait le livre des Proverbes à tout garçon hébreu tout au long de sa croissance, afin qu'il connaisse les standards de Dieu pour sa vie. Et nous devons donc le connaître. Puis-je ajouter quelque chose? La connaissance dont parle l'Écriture n'est pas distincte de l'obéissance. Elle ne sait rien de la théorie. Elle ne sait rien du concept. Elle ne sait rien du simple intellectualisme du grec Sophia. La conception hébraïque de la sagesse était toujours le comportement. En fait, pour Hébreux, quand on ne le mettait pas en pratique, c'est qu'on ne le savait pas vraiment. Pour le grec, la sagesse, sophos, était intellectuelle. C'était de la théorie, c'était conceptuel. Mais pour l'hébreu, la sagesse constituait la vie, c'était la vie pratique. Il s'agissait de se comporter d'une manière conforme à la loi de Dieu. La sagesse ne consistait pas simplement à concevoir. La sagesse, c'était marcher. Ainsi, chaque fois que la Bible nous attire à la connaissance, et là où elle nous invite à connaître, et là où elle nous attire à la sagesse et à la compréhension, et à l'illumination, et à la perception, c'est toujours avec le comportement en perspective. On ne connaît pas vraiment tant qu'on n'a pas mis en pratique. Heureux plutôt ceux qui entendent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Jésus a dit, « Si vous m'aimez, alors gardez mes commandements, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. » Et dans Deutéronome 5, 29, la Bible dit, « Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements, afin qu'ils fussent heureux à jamais, eux et leurs enfants. » L'Éternel a dit à Josué d'étudier et de méditer la parole de Dieu. Et ainsi, dans Josué 1, 8, il est dit « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » En d'autres termes, Josué, tu dois te dévouer à la loi de Dieu. Tu connais le chaos qui régnait en Israël quand la loi était perdue, et finalement, lorsqu'elle a été trouvée, et qu'ils se sont tenus pour la lire. Quel réveil cela a déclenché de retrouver le standard de la vie. Et vous vous souvenez des paroles d'Ésaïe ? Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur, et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Dieu déclare, comme la pluie et la neige descendent et arrosent la terre, ainsi ma parole descendra et donnera de la croissance à votre vie. J'aime les psaumes, le livre des cantiques de l'Ancien Testament. Et David, bien sûr, était un homme doté d'un cœur d'adoration. Et dans Psaume 138:2, il adorait Dieu en ces mots. « Je me prosternerai dans le palais de ta sainteté, et je célébrerai ton nom pour l'amour de ta bonté et de ta vérité. » Version Martin. Pourquoi à cause de ta vérité? Car tu as magnifié ta parole au-dessus de toute ta renommée. En d'autres termes, David dit « Dieu, je vais t'adorer sur la base de ta vérité. » Nous en avons parlé par le passé. Vous ne pouvez même pas adorer Dieu, peu importe le sens que cela pourrait avoir dans votre esprit. Vous ne pouvez pas véritablement adorer Dieu, à moins que vous ne l'adoriez conformément à la vérité. Ici, les gens se trouvaient sur le mont Garizim, et ils essayaient d'adorer Dieu dans Jean 4. Et Jésus dit, « Vous devez adorer l'Éternel en esprit, oui, mais aussi en vérité. Ce n'est pas à vous de développer vos propres méthodes. Comme Saül, vous ne pouvez pas offrir au Seigneur tout un tas d'animaux que vous avez volés en violant son commandement pour ensuite dire, « Eh bien, je rends un culte à l'Éternel. » Et le prophète lui a dit, « Tu pourrais penser que tu es en train de servir Dieu. » Il a dit non à ces animaux. « Aucun de tes fils ne s'assiera sur le trône. » Et il a maudit sa descendance. Dieu ne veut pas d'une adoration customisée par soi-même. Il la veut conforme à sa parole. Dans Psaume 119, l'un des poèmes les plus majestueux de tous les écrits sacrés, pratiquement chacun des 176 versets, nous enseigne la nécessité de l'obéissance à la parole de Dieu. Au verset 1 et 2, le psaume tout entier commence. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur. Et vous savez ce qu'il dit au verset 11 ? Je sers ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Nous réalisons donc que l'Écriture nous invite à obéir à la parole de Dieu. Maintenant, bien-aimés, le standard est là-haut, vous voyez. Je viens juste de vous citer écriture après écriture après écriture. L'importance de la parole. Puis-je vous demander de faire une alliance dans votre cœur? Je ne veux pas vous l'imposer. J'aimerais juste que vous le fassiez parce que c'est juste. Vous dites, eh bien, vous savez, l'étude de la Bible, c'est beaucoup de travail. Certainement. Mais ces choses vous ont été écrites afin que votre joie soit quoi? Complète. Vous désirez une joie complète dans votre vie? C'est pour cette raison que Dieu a écrit ceci. Voulez-vous faire une alliance? Et je vais vous proposer une alliance pour que vous n'ayez pas besoin d'en concevoir une. Il s'agit d'une alliance qui a été conçue par le roi Josias, et Dieu l'a vraiment béni pour cela. Dans 2 Chroniques 34-31, le roi se tenait sur son estrade, et il traita alliance devant l'Éternel. Que Dieu bénisse son cœur. Ce jeune homme, Josias, était comme un rayon de lumière au milieu des ténèbres du passé ancien d'Israël. Un homme pieux. Il a traité une alliance devant l'Éternel. Écoutez ceci à présent. S'engageant à suivre l'Éternel et à observer ses ordonnances, ses préceptes et ses lois, de tout son cœur et de toute son âme, afin de mettre en pratique les paroles de l'alliance écrites dans ce livre. Josias a déclaré, « Dieu, aussi longtemps que je vivrai, ce jour, je fais le vœu d'apprendre et de mettre en pratique ta parole. C'est pour cette raison qu'il a fait la différence. C'est pour cette raison qu'il était différent de tous ceux qui l'ont précédé et ceux qui sont venus après lui. Êtes-vous disposé à faire cette alliance? Ceci est la parole de Dieu. Étudiez-la comme Dieu vous l'a commandé. À présent, de manière plus spécifique, qui, pour ce matin, peut étudier la Bible? Je viens juste de faire une injonction générale. Je viens tout juste de demander à tout le monde d'étudier la Bible. Mais maintenant, qui peut l'étudier et en tirer quelque chose? Vous dites, eh bien, il faut aller au séminaire. Vraiment? Quels sont les prérequis? Eh bien, il faut avoir plusieurs livres pour le faire. Je ne suis qu'un bleu. Je ne sais pas faire. J'ai bien essayé de comprendre, mais tous ces mots sont tellement compliqués. Je ne la comprends pas. Eh bien, ma femme est vraiment douée dans ce domaine. Moi, je suis nul. Qui peut la comprendre? Beaucoup de gens prétendent la comprendre. Ils viennent frapper à votre porte et vous proposent de vous l'expliquer. Qui peut comprendre la Bible? Quels sont les prérequis? Quelles sont les exigences de base? Eh bien, nous démarrons. Je vais vous en donner 5, puis un 6e. Premièrement, qui est capable de comprendre la Bible? Seulement les croyants. Rien que les croyants. Tout d'abord, vous devez être chrétien, un vrai chrétien, un croyant, né de nouveau, régénéré. Vous dites, « Eh bien, Vous voulez dire que si l'on n'est pas chrétien, on ne peut pas comprendre la Bible. C'est exact. Laissez-moi vous le montrer. 1 Corinthiens 2,14. Je vais y travailler quelque peu. Laissez-moi donc commencer au verset 10. C'est un excellent aperçu. Mais Dieu, observez à présent ceci, nous les a révélés par l'Esprit. Les se réfèrent aux vérités de Dieu, les principes de Dieu, ou bien la révélation de Dieu ou la parole de Dieu. Qui la reçoit? Dieu nous les a révélés par l'Esprit. J'aimerais vous faire remarquer le petit mot « nous » au verset 10. Maintenant, cela ne pourrait pas sembler très important en français, mais en grec, ça l'est. Étant donné qu'en grec, ça vient au début de la phrase, à nous. Et c'est dans la forme emphatique. Et ce que Paul dit, c'est ceci. La révélation de la vérité de Dieu est à nous, et nous indique les croyants. Observez. En contraste avec ceux auxquels il fait allusion jusque-là. Car depuis 1.8, en descendant complètement jusqu'à 2.9, il parle de l'ignorance des philosophes du monde concernant la vérité de Dieu. Ils sont incapables de la connaître. Pourquoi ? À cause du verset 9. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues. En d'autres termes, ils sont incapables de le voir, de manière empirique. Ils ne peuvent pas la trouver à travers la découverte. Deuxièmement, et qu'ils ne sont point montés au cœur de l'homme. Ils ne peuvent pas trouver cela par leurs sentiments, ou leurs émotions, ou leurs rêveries, ou leur propre expérience spirituelle. Ce n'est pas disponible de l'extérieur. Ce n'est pas disponible de l'intérieur. Peu importe combien le philosophe peut être érudit. Pourquoi ? Parce que Dieu l'a révélé à nous, et non pas à eux. C'est ça l'implication. Ce n'est pas disponible. Il y a ceux du monde qui déclarent la sagesse humaine, les princes de ce siècle, dit-il au verset 6. Mais aucun des princes ne connaît la vérité, dit le verset 8. Aucun d'entre eux ne le sait. Cela ne leur est pas accessible. Pourquoi ? Parce qu'ils sont incapables de le connaître dans leur humanité. Verset 11. Car qui est-ce des hommes qui sachent les choses de l'homme, sinon l'esprit de l'homme qui est en lui ? De même aussi, nul n'a connu les choses de Dieu, sinon l'esprit de Dieu. Si le Saint-Esprit ne vit pas en une personne, elle ne peut rien savoir au sujet de Dieu. Il se peut qu'elle pense connaître un certain nombre de choses. Elle pourrait essayer de comprendre certaines choses, mais elle ne peut pas véritablement connaître, certainement pas dans le sens de connaître et de mettre en pratique cette vérité dans sa vie. Mais le verset 12 dit « Or, nous avons reçu non point l'esprit de ce monde. L'esprit du monde constitue tout simplement l'idée de la raison humaine. C'est une paraphrase de la raison humaine. Nous ne dépendons pas de la raison humaine, mais plutôt de l'esprit de Dieu. Et à cause de lui, nous connaissons les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » Et ensuite, le verset 14 fait le résumé. Mais l'homme naturel, notez à présent ceci, n'accepte pas, ou encore ne reçoit pas, ce qui vient de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. Il en est même incapable. De quoi ? De le comprendre, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Version second 21. Si vous n'êtes pas croyant, vous ne pouvez pas vraiment saisir par la compréhension et le résultat la vérité de la parole de Dieu. C'est la même chose dans l'analogie du verset 11. Un homme ne peut rien savoir de lui-même, à moins de le savoir dans son esprit. Autrement dit, son corps ne peut pas savoir. Illustration. Un cadavre ne sait absolument rien, parce qu'il n'a pas d'esprit. Un homme qui n'a pas l'esprit de Dieu est comparable à un cadavre physique. Il ne peut rien savoir non plus. C'est ça la mort spirituelle. L'absence de la connaissance de Dieu liée à l'absence de l'esprit de Dieu. Et ainsi, sans connaître Christ, on ne peut pas connaître la Bible. Et c'est ce qui est si triste au sujet des sectes et tout. Ils arrivent là et imaginent ces concoctions élaborées de supposées théologies. Et puisqu'ils ne connaissent même pas Dieu pour commencer, parce qu'ils renient Jésus-Christ, ils sont désespérément confus et la confusion se contente de s'empiler. La vérité n'est disponible que pour ceux qui connaissent et aiment le Seigneur Jésus-Christ. Martin Luther a dit « L'homme est comme une colonne de sel. » Il est comme la femme de Lot. Il est comme une bille de bois ou une pierre. Il est comme une statue sans vie, qui ne se sert ni des yeux, ni de la bouche, ni des sens, ni du cœur, jusqu'à ce que cet homme soit converti et régénéré par le Saint-Esprit. Et jusqu'à ce que cela se produise, l'homme ne connaîtra jamais la vérité de Dieu. Et ainsi, je vous encourage juste en vous disant que l'essentiel pour connaître la Bible consiste à connaître Dieu à travers Jésus-Christ. Maintenant vous dites, « Mais je pensais que vous alliez nous dire comment étudier la Bible. Ce n'est pas de la prédication, ça. Écoutez, Je vais vous le dire ce soir. Mais j'aimerais que vous sachiez ce que je vous ai dit plus tôt. Si vous ne le faites pas, si vous ne comprenez pas les prérequis, la méthode n'aura aucun sens. Ce sont les fondamentaux. Un cœur qui croit parviendra à comprendre. Vous savez, ceci est rendu évident par les paroles de notre Seigneur, aussi profondément que n'importe où dans la Bible. Dans Jean 8, 44, il s'adresse aux pharisiens. Il déclare « Vous avez pour père le diable ». Et ensuite, il leur fait une déclaration incroyable. Il dit « Le diable profère le mensonge ». Et ensuite, il déclare au verset 45 « C'est quelque chose ». Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Impressionnant. En d'autres termes, la raison pour laquelle vous ne me croyez pas, c'est parce que je vous dis la vérité, et c'est quelque chose que vous êtes incapable de comprendre. Tel est l'état de l'homme non régénéré. C'est la condition d'un incroyant. Vous leur dites la vérité, et ils ne la reçoivent pas, parce que c'est la vérité, et qu'ils sont incapables de la saisir. Il existe un second principe. Pour pouvoir étudier la Bible, vous devez vous montrer diligent. Non seulement être né de nouveau, mais se montrer également diligent. Diligent. Et ceci est une pensée formidable, être diligent. On ne peut pas étudier la Bible en désordre. Il faut un engagement vis-à-vis d'elle. Laissez-moi vous montrer ce que je veux dire. Dans Actes chapitre 17. Vous savez que l'apôtre Paul se déplaçait dans le cadre de son ministère envers les païens. Il avait été à Thessalonique. Il en est parti pour se diriger vers le sud de la Bérée. Il est dit dans Actes 17:10. Aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. C'est formidable. Mince, en voici quelques esprits ouverts. C'est un groupe qui se situe dans cette petite brèche du milieu. Ils désirent savoir, et leurs esprits sont ouverts, et ils sont disposés à la recevoir. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Plusieurs d'entre eux crurent. Ils étaient plus nobles que les autres parce qu'ils se montraient diligents dans leur étude. Je crois qu'ils étaient de véritables saints de l'Ancien Testament. Je crois qu'ils connaissaient Dieu selon les critères de l'Ancien Testament, et leur cœur était grand ouvert. Lorsque l'Évangile est arrivé, ils étaient disposés à recevoir, et ils cherchaient avec diligence. Au fait, le terme traduit par « sonder » est une terminologie judiciaire qui veut dire une investigation. Ils se sont vraiment impliqués et ont investigué pour voir si c'était vrai. Bien-aimés, vous ne pouvez pas étudier la Bible au hasard. Dans 2 Timothée 2:15, il est dit « Efforce-toi », et il emploie un terme immensément fort. « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Écoutez, vous devez vous montrer diligent dans votre étude de la Bible. Pourquoi ? Pour que vous puissiez la dispenser droitement. Car si vous manquez de le faire, vous aurez des raisons d'en avoir honte, et vous ne serez pas approuvé. Oh, ce terme « approuvé » est un grand mot. Dokinos, dokinos, éprouvé, testé. Prouver être de grande qualité, un chrétien de grande qualité, un chrétien prouvé, qui n'a aucun défaut pour lequel il aurait honte, en tant que quelqu'un qui se montre diligent à étudier la parole de Dieu, de la dispenser droitement. L'expression « dispenser droitement » signifie littéralement « couper droit ». Paul était un faiseur de tentes, et c'est le terme qu'il employait parce qu'il fabriquait des tentes à partir du cuivre de chèvre. Il avait besoin de couper les pots au préalable, avant de les faire tenir ensemble. Il ne faisait pas une tente à partir d'une chèvre. Il n'y avait pas de super chèvre. Il fallait couper de petites peaux de chèvre et les faire tenir ensemble, vous voyez. Et il rassemblait tous ces morceaux, et la partie diligente dont Paul parle, c'est qu'il est nécessaire de couper droitement chaque portion de l'Écriture, sinon l'ensemble ne se rejoint pas. Mesdames, lorsque vous cousez, vous ne pouvez pas faire une robe si chaque morceau n'a pas la bonne forme. Et en langage théologique, on dira qu'on ne peut pas être un théologien sans être un exégète. On ne peut pas donner du sens à l'ensemble si on ne sait pas quoi faire avec les différentes composantes. Ainsi donc, vous devez traiter la parole de Dieu en coupant chaque portion droite et en faisant ensuite tenir le tout ensemble. Et cela requiert du travail. Comme je vous l'ai dit avant, G. Campbell Morgan a dit, 95% de l'inspiration est faite de transpiration. C'est du boulot. Dans 1 Timothée, chapitre 5, la Bible indique cela en écrivant au sujet des anciens. Il est dit « Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. » Et il y a l'emploi de kopiao, qui est un verbe grec signifiant « travailler » jusqu'à la transpiration et l'épuisement. Oh, il dit « Honorez ces anciens qui travaillent dur dans l'écriture, c'est du boulot. Il faut qu'il y ait un engagement à la diligence, au dur labeur dans l'examen des écritures. » Et ainsi, pour commencer, si vous allez être un étudiant de la Bible, vous allez apprendre les écritures et en faire un engagement personnel dans votre vie. Premièrement, vous devez naître de nouveau et connaître Jésus-Christ pour avoir en vous le Saint-Esprit qui vous enseigne. Deuxièmement, vous devez être diligent. Troisièmement, et ceci doit être le sommet de nos pensées, vous devez avoir un formidable désir. Cela ne va pas arriver par accident. En fait, rien n'arrive jamais par accident, et certainement pas le fait de devenir un bon étudiant de la Bible. Vous devez le désirer. 1 Pierre 2:2. Désirez comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez. Un bébé désire une chose, du lait. C'est tout. C'est l'unique chose que désire un bébé. Il ne se préoccupe de rien d'autre. Il ne se soucie pas de la couleur des rideaux ou de la moquette. Peu importe si vous êtes dans telle ou telle pièce. Peu importe la couleur des chaussons ou de la chemise de nuit. Il s'en fiche éperdument. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez autour de la maison. Ce bébé ne se préoccupe pas du genre de voiture que vous achetez. Le bébé ne se soucie aucunement de ce que vous mangez. Le bébé veut du lait. C'est tout. Donnez-lui du lait. Traitez avec les conséquences. C'est tout le deal. Le bébé n'a qu'une seule pensée en tête. Et c'est ce que Pierre dit. Il dit, comme un bébé désire du lait, et seulement du lait, et consumé par le lait, ainsi devrait être votre faim pour la parole. Et vous savez, quelquefois les gens me demandent pourquoi nous étudions la Bible. Et je ne sais pas où je l'ai pris, mais quelque part au cours du trajet, Dieu m'a donné la faim de connaître sa parole. Très souvent, un pasteur dira, « Vous savez, votre église s'est agrandie grâce à l'enseignement de la Bible. J'aimerais le faire et construire une église, mais ce qu'il recherche vraiment, c'est d'utiliser l'enseignement de la Bible comme moyen de construire une église et non pas comme un assouvissement de leur propre faim. Et ça ne fonctionne pas comme un gadget. Vous devez avoir faim de la parole. J'aime ce qui est dit dans Proverbe 2. Proverbe 2, 4. Il est dit, « Si tu la cherches comme l'argent, pouvez-vous imaginer combien les gens travaillent dur pour trouver de l'argent, trouver de l'or ? C'est de cette manière que vous devez rechercher la connaissance de la parole de Dieu. Je crois que Job possède le discours le plus merveilleux à ce sujet dans Job 28. Il donne ce formidable discours sur l'exploitation minière, et il applique cela ensuite à la parole. Écoutez, il y a pour l'argent une mine d'où on le fait sortir, et pour l'or un lieu d'où on l'extrait pour l'affiner. À présent, Job va parler du travail que les hommes font pour l'or et l'argent. Le fer se tire de la poussière, et la pierre se fond pour produire l'airain. Et il dit, « Mince, les hommes ne reculent devant rien pour faire de l'extraction minière. L'homme fait cesser les ténèbres, il explore, jusque dans les endroits les plus profonds, les pierres cachées dans l'obscurité et dans l'ombre de la mort. Il dit, « Ils vont creuser la terre comme des taupes dans les ténèbres opaques. » Ils vont se mettre dans des situations très dangereuses. Ils feront tout ce qui est en leur pouvoir pour trouver ce qu'ils cherchent. Le torrent se débordant d'auprès d'un lieu habité se jette dans des lieux où l'on ne met plus le pied, mais ses eaux se tarissent et s'écoulent par le travail des hommes. » Version Martin. L'idée ici est de changer la configuration de la terre et de faire de l'exploitation minière et de tout extraire. L'homme met sa main au caillou et renverse les montagnes jusqu'aux racines. Littéralement, verset 9, ils creusent si profond qu'ils changent la configuration de la terre. Ils vont à des endroits, verset 7, dont l'oiseau de proie n'en connaît pas le sentier. L'œil du vautour ne l'a point aperçu, où aucun animal n'a jamais été. Les plus fiers animaux ne l'ont point foulé, verset 8. Le lion n'y a jamais passé. Il ouvre des tranchées dans les rochers, et il arrête le cours des rivières, au verset 11. Il creuse et trouve le métal précieux. Imaginez cela un instant dans notre société. Nous creusons et chassons, et allons à de formidables extrêmes pour acheter de l'or et de l'argent que nous portons sur nos doigts, nos bras et nos cous et nos oreilles, tout genre de choses de cette espèce, et des formidables dépenses que cela implique, et nous minons, creusons en quête d'autres métaux précieux, et de toutes les choses différentes, et nous faisons absolument tout. Et pourtant, malgré tout l'avancement, toute la technologie, tout le luxe, tout l'or, l'argent, et le métal, et tout ce que nous possédons, l'unique chose qui nous fait défaut, c'est la sagesse. Et c'est exactement là où Job veut en venir, et il l'exprime très clairement au verset 12. Mais la sagesse, où se trouve-t-elle? L'homme est tellement doué pour creuser et extraire toute autre chose. Où trouvera-t-il la sagesse? Où est la demeure de l'intelligence? Où peut-on trouver la compréhension? L'abîme dit, elle n'est point en moi. Et la mer dit, elle n'est point avec moi. Elle ne se donne pas contre de l'or. Elle ne s'achète pas au poids de l'argent. Elle ne se pèse pas contre l'or d'Ophir, ni contre le précieux onyx, ni contre le saphir. Elle ne peut se comparer à l'or, ni au verre. Elle ne peut s'échanger pour un vase d'or fin. Le corail et le cristal ne sont rien auprès d'elle. La sagesse vaut plus que les perles. Et il continue, encore et encore. Ce n'est tout simplement pas disponible. En d'autres termes, ce qu'il dit, c'est que sur la terre humaine, dans l'environnement humain, et dans l'économie de l'homme, la sagesse n'est pas disponible. Cependant, l'implication de ce qui est dit dans Proverbe, c'est qu'il est stupide, cet homme, qui dépense une telle énergie pour trouver du métal, et ne bouge pas le petit doigt pour connaître la vérité. Que Dieu nous aide à rechercher la sagesse dans sa parole, comme les hommes cherchent du métal précieux. Avez-vous un désir pour sa parole? Avez-vous une passion débordante pour sa parole? Job 23, 12. J'aime ce verset. Il a dit, « J'ai serré les paroles de sa bouche, plus que ma provision ordinaire. » Version Martin. S'il fallait choisir entre travailler pour gagner mon pain et étudier sa parole, je partirais pour sa parole. S'il s'agissait de choisir entre manger et se nourrir de sa parole, mon choix porterait sur sa parole, car pour moi, elle est plus précieuse que n'importe quoi d'autre. C'est le genre de faim à laquelle le psalmiste a dû faire allusion lorsqu'il a dit « Oh, combien j'aime ta loi !» Et il a dit dans le psaume 119 « Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. » Il doit donc y avoir un grand désir, braves gens. Vous dites, « Eh bien, je n'ai pas ce désir. Comment faire pour l'avoir ?» Eh bien, je pense que toutes ces choses que je vais vous citer se rejoignent, et on ne les trouve pas dans un seul paquet. Si seulement vous êtes né de nouveau, ce n'est que la première exigence. Si vous êtes né de nouveau, et si vous êtes diligent, ce ne sont que les deux premiers. Si vous êtes né de nouveau, si vous êtes diligent, et si vous avez le désir, ça fait seulement trois. Et il y en a encore. Je pense que tous ces points se rejoignent, et si vous êtes faible sur un, cela sera compensé par un autre. Passons donc au quatrième, et nous allons juste parcourir ces deux derniers, très brièvement. Quatrièmement, c'est la sainteté. J'ai le sentiment qu'il faut de la sainteté pour étudier la parole de Dieu. Vous dites, eh bien, où êtes-vous allé chercher ça? Permettez-moi donc de vous montrer deux versets, et ce sera tout, très brièvement. J'aimerais que vous le saisissiez. 1 Pierre 2:1. Et j'ai mentionné le verset 2, mais j'aimerais mentionner le 1 en lien avec cela. Rejetant donc, écoutez à présent, rejetant donc toute malice, le mot traduit par malice est kakia en grec. Il signifie mal, le mal en général. Débarrassez-vous de tout mal, de toute tromperie, toute hypocrisie, toute envie et toute médisance. En d'autres termes, purifiez votre action. La sainteté et la justice. Purifiez votre vie et ensuite désirez le lait de la parole, afin de croître. Si le désir n'y est pas, vous feriez mieux de retourner au verset 1. Vous voyez pourquoi je dis que vous devez tous déprendre. Vous n'allez pas obtenir le désir dans le vide. Si vous êtes né de nouveau, si vous êtes saint et juste, c'est-à-dire que vous traitez avec le péché dans votre vie, le confessant et menant une vie pure devant Dieu, à partir de cette réalité de la nouvelle naissance, à partir de la sainteté de votre vie, sortira un désir diligent d'étudier, mais on ne peut pas avoir l'un et l'autre d'un coup. À présent, j'aimerais que vous regardiez Jacques 1:21, parce qu'il dit la même chose. Écoutez ceci. Il est dit à la fin du verset 21. « Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous. Mais vous ne pouvez pas le faire sans au préalable passer par la première partie du verset. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous. La parole, voyez-vous, ne peut pas accomplir son œuvre dans une vie de péché. Ce n'est pas quelque chose de théorique. Il s'agit d'une réalité vivante. Ce n'est pas seulement une pensée. C'est la vie. Et que nous dit donc la parole de Dieu? Qui peut étudier la Bible? Une personne qui est née de nouveau, quelqu'un qui est disposé à se montrer diligent et à sonder l'Écriture, une personne qui a une grande faim et un désir ardent pour elle, un désir né de la sainteté, de la justice. Et cinquièmement, pour pouvoir étudier la parole de Dieu de manière efficace, il faut être contrôlé par le Saint-Esprit, conduit par l'Esprit de Dieu. Depuis 3 semaines, je lis un livre écrit par un auteur laïque sur une personnalité religieuse bien connue. Et tandis que je parcourais les pages et qu'il parlait, évaluait et critiquait et faisait de formidables déclarations au sujet de cet homme et d'autres aspects de son ministère, j'ai trouvé intéressant de ressentir, plus que pour n'importe quel autre livre depuis longtemps, le désir de parler à son auteur. Si seulement je pouvais m'asseoir avec lui et dire « Maintenant, que voulez-vous dire par ceci ?» ou « Comment savez-vous que ceci est vrai ? Comment pouvez-vous soutenir ceci ?» ou encore « Sur quoi basez-vous cette affirmation ?» J'ai tellement voulu lui parler, et en pensant à cela, je me suis dit que c'était tellement merveilleux d'étudier l'Écriture, en sachant que je ne dispose pas seulement de la page que je tiens en main, mais également de l'auteur dans son cœur, parce que l'Esprit de Dieu est l'enseignant. Regardez dans 1 Jean 2:20. 1 Jean 2:20 dit « Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. » Maintenant, ce qui vient d'être dit, ce verset n'a peut-être pas beaucoup de sens, mais ce qui se passe ici, c'est que Jean parle des faux enseignants, l'Antichrist. Ils pensaient tout savoir et disaient « Nous savons parce que nous avons une onction ». C'était leur phrase de prédilection. « Nous savons parce que nous avons une onction ». Nous avons une onction spéciale, qui nous élève au-dessus de qui que ce soit d'autre. Et Jean déclare aux chrétiens « Eh, c'est plutôt vous qui avez l'onction. Vous avez une onction, et non une pseudo-onction mystique. » Vous avez l'onction qui vient du Saint-Esprit, et vous savez toutes choses. Au verset 27, il clarifie cette même pensée. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Quelle que soit cette onction, elle demeure en vous. Et qui est-ce? C'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu vit en vous. Ce qui fait que nous n'avons pas besoin d'enseignants humains, étant donné qu'il nous enseigne. Ce qui est dit là, c'est que nous n'avons pas besoin de ceux qui enseignent la sagesse humaine. Pourquoi? Nous avons une onction, l'Esprit de Dieu. Ainsi donc, bien-aimés, c'est par conséquent évident qu'il faut que nous soyons nés de nouveau, diligents, ayons un grand désir, vivions une vie sainte et soyons remplis du Saint-Esprit, contrôlés par le Saint-Esprit, puisque c'est l'Esprit qui enseigne et applique la parole de Dieu. Il y a une autre chose et je clôture. Tout ceci doit se rejoindre dans une atmosphère de prière. Si vous voulez noter un 6e point, le voilà. Et pourtant, ce n'est pas vraiment un 6e point. Vous pourriez dessiner un cercle autour des 5, et cela englobe tout. La prière. Je crois que notre étude de la Bible doit naître de la prière. Je fais si souvent cette simple prière. Seigneur, tandis que j'aborde ta parole, montre-moi ta vérité. Enseigne-moi ce que j'ai besoin de savoir. Je n'aborderai jamais l'Écriture sans rechercher Dieu dans la prière. Et comme dit Éphésiens 1, Paul dit, je fais mention de vous dans mes prières. Pourquoi pries-tu, Paul? Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez. Écoutez, Paul dit, je prie pour vous. Pourquoi pries-tu, Paul? Que vous puissiez savoir, que vos yeux soient ouverts, que vous puissiez comprendre, que vous puissiez voir la vérité. Si Paul a prié pour que nous comprenions la parole de Dieu, alors il est évident que nous devons également prier. Qui peut étudier la Bible? Écoutez, vous devez trouver la bonne réponse à la question de savoir qui, sinon le comment n'aura aucune importance. Êtes-vous né de nouveau? Avez-vous un grand désir dans votre cœur? Êtes-vous diligent, saint, conduit par le Saint-Esprit, des personnes de prière? Si c'est le cas, alors vous pouvez ouvrir les pages de ce livre. Et Dieu dévoilera ses vérités à votre cœur. Quand votre vie est correcte, alors la méthode que nous allons partager avec vous ce soir et le comment procéder deviendront productifs et possibles et vraiment une expérience qui changera votre vie, tandis que vous étudierez sa parole. Prions ensemble. Nous t'honorons, Père, pour ta parole. Nous la chérissons. Nous l'aimons parce qu'elle nous parle de toi. Nous n'adorons pas le livre, mais nous exaltons le livre parce qu'il nous permet de t'adorer. Puissions-nous savoir que tu es révélé ici. En dehors de ce livre, c'est le mystère. Puissions-nous donc l'aimer comme l'a fait le psalmiste. puissions-nous trouver son goût aussi doux que du miel. Je prie ce matin, Père, pour ceux qui pourraient être avec nous et qui désirent tant savoir ce que le standard de la vie est, qui veulent connaître la ligne de base de l'existence, qui désirent une autorité absolue, et peut-être même qu'ils croient que c'est la Bible, mais ne peuvent pas la comprendre parce qu'ils ne sont jamais venus à Jésus-Christ. Je prie aujourd'hui pour que tu les sauves, Père, que tu étendes ta main d'amour pour les racheter, que tu les attires dans la famille, que tu plantes l'Esprit de Dieu dans leur vie, afin qu'ils leur enseignent ta vérité. Pour les chrétiens qui sont avec nous, je prie que tu attises dans leur cœur un grand désir, né de la sainteté qui conduit vers la diligence, tandis que l'Esprit de Dieu contrôle leur vie. Et tout cela, imprégné de la prière, Père, puissent-ils devenir des étudiants de la parole que tu désires qu'ils soient. Père, puissions-nous savoir que ceci est un livre qui a été écrit pour chaque être humain. Nous tenons entre nos mains, non pas le symbole d'une chose quelconque, mais plutôt la réalité elle-même, tes véritables paroles. Puissent nos cœurs demeurer insatisfaits jusqu'à ce qu'ils festoient au quotidien sur ta vérité. Ramène-nous ensemble ce soir, Seigneur, tandis que nous considérerons comment étudier dans les aspects pratiques, que nous puissions remplir notre compréhension et que ce soit un jour de changement réel dans nos vies. Nous te donnons la louange au nom du Christ. Amen.
Pour de plus amples renseignements, ainsi qu'un accès gratuit aux leçons de John, connectez-vous à Une Grâce pour vous sur le site gty.org. Le site vous offre la possibilité d'acheter la Bible d'études de MacArthur, qui est la principale ressource financière du ministère de John. Le site vend toutes les traductions disponibles. Par contre, il n'est pas possible de la fournir gratuitement pour chaque pays où ce message est entendu. John MacArthur et Une Grâce pour vous sont dépositaires du copyright pour tous ces messages. Nos conditions en ce qui concerne la duplication des messages sont indiquées sur le site gty.org.